Alors, Genèse 39. Alors, la dernière fois, nous avons laissé Joseph en compagnie des Ismaélites. Hein, les frères l'ont vendu. Un détail pour combien de pièces? Est-ce qu'ils l'ont vendu? Non? Jésus a été vendu pour combien? 30. Joseph a été vendu pour 20 pièces d'argent. Bon, c'est un petit détail, c'est juste pour voir si les jeunes, ils écoutaient. Voilà. Donc, nous allons aller jusqu'au verset 9 hein, ce soir. Mais je vais lire la première partie d'abord. Donc, verset 1 jusqu'à 6, il dit: On fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qui l'avaient fait descendre. L'Éternel fut avec lui, et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qui l'employait à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar eut établi sur sa maison, l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qu'il possédait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Alors, d'après vous, ça se passe bien ou ça se passe mal? Vous aimeriez être à sa place? Alors, moi, je croyais que ça se passait bien. Vous avez il y a pas mal, quand même, il y a pas mal de difficultés. Là, on voit, on dit, oui, pour Potiphar, ça se passe bien. Pour Joseph, il y a quand même des difficultés. D'abord, il n'y a plus l'amour fraternel, il n'y a plus ses frères, hein, il y a plus, même s'ils l'embêtaient, même s'ils n'étaient pas gentils, mais c'était quand même ses frères. Hein. On préfère être embêté par ses frères que de ne pas les avoir. Il est privé de la famille. Il est au loin et il n'y a pas à espérer, il n'y a rien qui lui permet d'espérer de revoir sa famille. Pour lui, dans un sens, il peut se dire, j'ai même pas dit au revoir à papa, j'ai même pas rien du tout et je vais plus les revoir. Je sais pas si entretenir de telles pensées. Aussi, il est esclave, hein. Il est libéré, il est libre, il n'est pas libre de ses mouvements. Et avant, il était libre, il était le chéri de papa. Et là, tout d'un coup, il se trouve eh ben, limité au domaine de Potiphar. C'était peut-être grand parce que c'était une personne importante, mais c'est quand même. Hein. Je préfère être libre sur un petit espace qu'esclave sur un grand espace. Préfère être libre pauvre que esclave dans la richesse. Il y a quelque chose dans l'être humain, on n'aime pas ce genre de situation. C'est-à-dire, du point de vue de ce que l'être humain recherche et veut, il n'y a rien. Hein? Ni famille, ni liberté de mouvement, ni espoir, rien du tout. Hein? Sa vie maintenant, c'est ce Potiphar. Et puis il est à l'étranger, hein. Il est dans un coyote où la culture elle est différente, la langue elle est différente, il faut s'adapter. Il n'y a personne d'autre qui s'adapte, il n'y a que toi pour t'adapter. C'est un peu comme ces migrants qui arrivent en Europe, c'est une autre vie. Hein? Et tout est chamboulé, tout est dérangé chez lui. Et là, vous savez, on pourrait dire, on est arrivé de dire, et si vous étiez Joseph, vous auriez envie de dire, mais Dieu, où es-tu? Et il y en a qui le disent pour moins que ça. Dieu, où es-tu? Je croyais que tu m'aimais. Je croyais que tu étais là. Et tu n'as rien fait. Tu as laissé faire mes frères. Tu as laissé que je vienne jusque-là. Je suis dans l'esclavage. Et puis surtout, quand il pense à ses rêves, alors là, comment va se réaliser ce que Dieu a dit? Il est à des milliers de kilomètres de ses frères, et dans le rêve, c'était eux qui devaient se prosterner. Vous savez, il y a de quoi tout remettre en question. Peut-être la journée, elle est pleine, parce que quand on est esclave, en général, c'est-à-dire, il n'y a pas trop de longues pauses. Donc, il n'a pas le temps de penser dans la journée, mais le soir, quand on est seul, qu'est-ce qu'on peut penser? Et on aurait envie de dire, Dieu, où es-tu? Et pourtant, qu'est-ce qu'on a lu là? Eh bien, l'Éternel était avec lui. C'est ça qui est extraordinaire. L'Éternel fut avec lui. Alors que toutes les indications extérieures diraient que Dieu fait rien, et pourtant, eh bien, tout le long, Dieu est avec lui. Le Dieu de son père, le Dieu de son grand-père, le Dieu de son arrière-grand-père est avec eux. Et il dit, verset 2, l'Éternel fut avec lui. Bon, vous savez, peut-être l'Éternel n'est pas toujours avec nous comme on voudrait. Et pas toujours, c'est pas toujours ce qu'on a recherché. Mais. Vous savez, même dans des conditions difficiles, il vaut mieux qu'il soit avec nous là où il y a les conditions difficiles que sans lui, où tout est simple. Et vous savez, je souligne ça et je le souligne beaucoup parce que parfois, on a cette idée que si Dieu est avec nous, tout doit aller sur les roulettes, tout doit bien se passer, tout doit être comme je veux. Et c'est une fausse idée. Et les gens du monde vont nous le dire, nous le jeter à la figure, dire, oh, regarde, tu dis que tu as Dieu avec toi, ben, et ta vie elle est encore pire que la mienne. Mais ce n'est pas ça qui indique que Dieu est absent. Ce n'est pas parce qu'il y a des difficultés, parce que Dieu a un projet. Et des fois, on passe par des moments difficiles pour se préparer. Il y a aussi Daniel, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'histoire de Daniel. Daniel, c'était un adolescent, un prince certainement, dans tous les cas de la noblesse juive, et ils sont emportés en captivité jusqu'en Babylone. Tout est brûlé derrière, donc. Il n'y a rien à espérer derrière. Ils arrivent là-bas, en Babylone, et le roi Nebuchadnezzar remarque qu'eux, ils ont de l'éducation, ils ont fait des recherches, ils ont l'air intelligents. Il dit, oh ben, vous allez faire une formation de 3 ans, et puis après, vous aurez des postes dans le gouvernement. Et oui, mais Dieu, où es-tu? Ah, ce Nebuchadnezzar, c'est lui qui a brûlé Jérusalem, c'est lui qui a détruit le temple, c'est lui qui a pris tout l'or du temple, c'est lui qui a. Et maintenant, nous on est là à son service. Est-ce que Dieu est réellement là? Eh bien, il nous dit, hein, il nous dit, vous lisez, je ne vais pas lire le récit, mais il nous dit que Dieu accorda, Dieu était là, Dieu accorda à ces 4 jeunes, Shadrach, Meshach, Abednego et Belshazzar, de la science, de l'intelligence, dans toutes les lettres et la sagesse, et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Dieu était là. C'est-à-dire, on peut être dans des circonstances désagréables, on peut être dans la maladie, dans l'épreuve, dans la difficulté, mais ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas là. Et c'est une idée reçue qu'il faut corriger. Dieu est là, et il accompagne les siens. Et donc, quand nous passons par des moments difficiles, eh bien, il ne faut pas tout de suite de dire « Mais Dieu, où es-tu ?» Et Dieu, aide-moi à croire que tu es là quand je ne te vois pas. Paul, l'apôtre Paul, était sur un bateau qui va faire naufrage. Dieu avait dit à Paul « Tu vas aller jusqu'à Rome ». Il est sur le bateau qui doit aller à Rome. Il y a une tempête qui dure depuis 3 semaines. Ils ont tout fait pour alléger le bateau, mais ça n'a pas l'air de s'améliorer. Et même les soldats romains sont prêts à tuer tous les prisonniers pour éviter qu'ils échappent. Et l'apôtre Paul se lève alors qu'il y a le vent, alors qu'il y a les vagues, alors que le bateau va dans tous les sens, personne n'a plus envie de manger, plus rien du tout. Et il va se lever, il va dire, un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit, Paul, ne crains point. Vous savez, on ne lit pas la présence de Dieu dans les circonstances. On n'évalue pas. C'est autre chose. Il y a des passages difficiles, mais ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas là. Dieu est avec nous. Souvenez quand les trois jeunes juifs étaient dans la fournaise. Ils étaient trois qui avaient été jetés dans la fournaise. Mais quand le roi a regardé, il a vu combien ? 4. Il a dit le quatrième ressemble à un fils de Dieu. Et une question que je me pose, c'est est-ce que les trois savaient que le quatrième était là ? Le roi l'a vu, parce que c'est un personnage qui n'était pas physique. Je me demande, moi j'aimerais penser que les trois, ils croyaient qu'il n'y avait que trois. Mais quand le roi a regardé, il a vu 4. Et vous savez, parfois, lorsque un enfant de Dieu passe par l'épreuve, l'enfant de Dieu se demande où est l'intervention de Dieu, et les gens qui nous observent disent, Dieu était avec eux, parce que je ne sais pas comment supporter ça. Eux voient Dieu, et nous on ne le voit pas. Et ça, ça existe aussi. Dieu intervient, Dieu donne la force, et nous on a l'impression que on ne sait pas pourquoi il ne vient pas, on prie, et puis on jeûne, et puis on se dit, bon, Seigneur, on fait quelque chose. Et le monde de l'extérieur dit, si ce n'était pas Dieu, cette personne ne tiendrait pas le coup. Et eux voient Dieu, sans que nous le voyons. Et c'est là tout à l'heure, je vous ai demandé, j'ai dit, ça se passe bien ? Vous dites, oui, pourquoi ? Parce que vous voyez Dieu. Mais ce n'est pas sûr que Joseph voyait toujours Dieu. Et c'est ça la différence, il faut se souvenir. Et ça, c'est une réalité, on ne peut pas l'expliquer aux autres, mais c'est une réalité entre nous, que le Seigneur est là, et que parfois, il y a plus de chances que les autres voient son intervention que nous ne puissions voir. Alors, même dans la difficulté, Dieu est présent. Et en Romains 8, 38 et 39, il dit « Car j'ai l'assurance, l'apôtre Paul. » Et lui, là, il en a eu des épreuves. Quand il prenait les 39 coups de fouet, quand il était en prison, quand il est les 3 fois qu'il était en naufrage, et on est exposé au climat, exposé à la prison, exposé aux voleurs. Eh bien, il dit, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Il a dit, il n'y a rien qui peut couper le contact. L'amour de Dieu est là. Et elle veille sur nous et pour l'instant, même si je ne le sens pas. Et l'apôtre Paul dit, j'ai l'assurance. C'est pas seulement j'espère, mais non, j'ai l'assurance. Dans tous les cas, il est là. Et son amour est là. Et si je n'ai pas à penser, même si les circonstances me semblent contraires, je n'ai pas de raison pour croire que ça y est, il ne m'aime plus. Chez les humains, il se peut que les choses arrivent au point où on n'est plus aimé par quelqu'un. Mais chez Dieu, non. Parce que Dieu est amour. Il est amour. C'est pas il aime, il est amour. Et ça change tout. Voilà, et cette présence, elle est là. L'Éternel était avec lui. Et qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que ça change, le fait qu'il soit là? Que l'Éternel soit là? Eh bien, le verset 2, il nous dit, l'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. C'est-à-dire, parce qu'il était là, tout ce qu'il faisait réussissait. Qui est-ce qui en profitait? Potiphar. Mais tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il entreprenait pour son maître réussissait. Vous savez, il y a quand même un principe aussi. En tant qu'enfant de Dieu, on n'est pas esclave. Nous, ici en Europe, en tous les cas, on n'est pas esclave de quelqu'un. Mais on peut être ouvrier, on peut être salarié par quelqu'un. On a un employeur, on a quelqu'un qui nous donne des ordres. Et un enfant de Dieu qui marche avec le Seigneur, qui vit pour le Seigneur, et ce qu'il fait, et comme il dit, tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire de Dieu. Eh bien, celui qui a cette attitude-là, en général, celui qui est notre employeur, celui qui est notre chef, il va être béni. Il a des avantages. C'est-à-dire, Potiphar, il a acheté un esclave et il a trouvé la bénédiction de Dieu. Et c'est extraordinaire. La prospérité l'accompagnait. C'est-à-dire, tout ce qu'il entreprenait, ça marchait. S'il plantait quelque chose, ça prenait. S'il ce qu'il construisait, ça montait. C'est-à-dire, la prospérité l'accompagnait. Et même, parce que l'Éternel était là, regardez au verset 4, dit Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qui l'employa à son service et l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Il dit, en plus, parce que Dieu était avec là, Dieu a pu, parce que vous savez, l'Égypte de l'époque, et puis ça c'était un personnage important. Et vous savez, parfois, les gens importants, ce n'est pas toujours doux et gentil avec les esclaves. Ils n'ont rien à faire avec eux. Mais Dieu, parce qu'il était là, Dieu a touché le cœur de cet homme pour voir en Joseph des capacités. Et il a placé sa confiance en lui. Et vous avez même vu qu'à la fin, verset 6, il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait. Il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Il était arrivé au point, lui un peu, il fallait qu'il surveille les esclaves, il fallait qu'il surveille tout ça, les chantiers qui tournent, tout ça, pour que ça marche. Parce que il arrive des fois, dès que le patron est absent, tout le monde, le travail s'arrête. Il a fait tout. Mais il a dit, avec Joseph, j'ai rien à craindre. Je rentre à la maison, je mets les pieds sur la table, je mange, et c'est tout ce que j'ai à faire. Je me soucie de rien, je pose pas de questions, ni rien du tout. Il est arrivé à ce point avec Joseph, d'une telle confiance, que ça marchait mieux avec Joseph qu'avec lui-même. Pourquoi? Pas à cause de Joseph, mais parce que Dieu était avec Joseph. Et lorsque j'appartiens à Dieu, Et je remets ma vie entre les mains de Dieu. Je dis, Dieu, je suis à ton service. Je ne suis pas en service de monsieur un tel, je suis à ton service. Et je te sers chez cet homme. Eh bien, ça change tout. Et les choses se passent autrement. Et ça reste encore vrai aujourd'hui. Et nous devons faire confiance à Dieu. C'est une vie de foi. Ce n'est pas dans le contrat qu'on a signé, mais Dieu le sait. Hein? Et on peut avoir la confiance des autres, mais parce qu'on vit pour lui. Donc ce que la présence de Dieu signifie pour Joseph, regardez maintenant ce qu'elle signifie pour Potiphar. Parce que pour Joseph, c'est une chose. Tout ce qu'il entreprend se passe bien. Tout ce qu'il veut faire, tout ce qu'il veut réaliser, ça marche. Parce qu'il faut savoir que c'est un autre pays, les choses se font différemment. Hein, il habitait la Palestine avant, maintenant il se travaille en Égypte. Même l'agriculture ne se fait pas de la même manière, tout est nouveau. Hein. Mais même s'il n'a pas d'expérience, même s'il n'a pas grandi là-dedans, la manière de construire, c'est pas la même. Lui, c'est un nomade avec des tentes, et tout d'un coup, il se trouve dans des maisons. C'est complètement autre chose. Mais tout ce qu'il fait lui réussit. Ça se trouve où, ça? Tout ce qu'il fait lui réussit. Non? Pensez à deux passages différents. Josué 1:8 et Psaume 1. Josué 1:8 dit je cherche les premiers mots. Josué 1:8 que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, c'est alors que tu auras des succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Mais d'abord, hein, dit, Seigneur, une fois que j'aurai réussi, je viendrai croire en toi. C'est un peu ce que Jacob a dit. Hein, après l'expérience là de son songe avec l'échelle qui montait au ciel, après il dit, voilà, Bethel, si tu prends soin de moi et que je revienne ici, vivant, eh ben, je croirai en toi. Vous savez, il y a des gens, mais ça, c'est pas un contrat pour Dieu, ça. Parce que ça n'exerce aucune foi. Mais il dit, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, et c'est alors que tu auras du succès, c'est alors que tu réussiras. Et Psaume chapitre 1, Psaume 1, le premier psaume, il dit, celui qui médite la parole de Dieu est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison, et tout ce qu'il fait, lui, réussit. Hein? Il dit, celui qui médite la parole de Dieu, jour et nuit, est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, peu importe les circonstances. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Alors, c'est pas... Dans le monde, bien sûr, ils sont obligés de calculer autrement parce qu'ils n'ont pas Dieu. Donc, ils ne peuvent pas mettre Dieu dans l'équation. Donc, ils vont dire, mais il est intelligent, il a été formé, il a d'expérience, il est bien entouré. On a toutes sortes d'explications. Et tout ça, ça a une valeur. Mais, eux, ils n'ont pas l'équation où Dieu intervient. Ici, l'histoire de Joseph, c'est la vie d'un esclave intelligent, mais Dieu est dedans. Et ça change tout pour Potiphar. Donc il nous dit, dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph, et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. C'est que pour qu'il le dise, c'est que c'était vrai. C'était pas seulement que ça ne s'est pas détérioré, mais il nous dit, la bénédiction était là. Et ça se voyait sur toute la maison, tout ce qui possédait, tout ce que possédait Potiphar, on voyait la réussite. Pourquoi ? à cause de Joseph. Pas parce que Potiphar était un gars qui était gentil, pas parce qu'il était juste, pas parce qu'il est honnête, pas parce qu'il croyait en Dieu, rien du tout. Rien que parce qu'il avait pris Joseph, et puis il a été bon avec Joseph. Vous savez, on parle de la justice de Dieu, et la justice de Dieu fait justice pas toujours comme on voudrait, mais là, Dieu fait justice. Hein, il comble. Et puis après, il y a le témoignage de la présence de Dieu, c'est-à-dire ce qui indiquait cette présence. Il nous dit, et réfléchissez un peu ce que ça veut dire, il dit, son maître, un païen, son maître, celui qui n'avait jamais entendu parler de Dieu, il ne connaissait pas l'Éternel, rien du tout, il dit, son maître vit que l'Éternel était avec lui. Il n'a pas seulement dit la chance est avec lui. Il n'a pas dit que il est. Non. Le maître vit que l'Éternel est avec lui. Quand la présence de Dieu est tellement évidente que même l'incroyant le voit, eh bien ça c'est un témoignage pour Dieu. Et notre vie doit être telle, ça ne peut arriver que lorsqu'on se donne pleinement à Dieu, lorsqu'on lui fait confiance, et alors Dieu agit et les gens disent, Dieu il est avec vous quelque part. Hein. Et ils le disent comme ça, puis il y a ceux qui le pensent et ils ne le disent pas, mais ils disent, c'est pas comme vous faites. Et je me rappelle une fois, c'était un Égyptien qui travaillait à la banque à Paris. Il avait un poste important dans la banque. Et alors, il vit pour l'argent. Il me dit, vous gagnez combien, vous? Bon, normalement, ce n'est pas une question qui se pose. Et normalement, ce n'est pas une question à laquelle on répond. Mais tellement il était curieux. Je lui ai dit, voilà ce que je gagne. Il dit, c'est pas possible, avec ça on peut pas vivre. Il dit, moi, avec ça, je fais rien du tout. Je lui ai dit, mais moi, écoute, la différence, c'est que toi, tu es obligé d'aller acheter neuf pour ceci, neuf pour cela. Tout ça. J'ai dit, moi, je rends grâce à Dieu parce qu'il me fait. Il me donne des francs élastiques. À l'époque, c'était encore des francs. Parce que je tombe sur une affaire. Toi, tu payes plein pot pour une voiture. Moi, j'ai une bonne affaire. Je vais acheter un frigo, je tombe sur une bonne affaire. J'ai quelqu'un qui me donne quelque chose. Et c'est comme ça que Dieu prend soin de moi. C'est pour ça que je m'en sors. Il a dit ça c'est sûr qu'il faut que Dieu... Parce que sinon, avec ça, on ne peut pas. Mais je dis, voilà, ben, gloire à Dieu. Mais il m'a permis de prendre conscience de cela. Mais c'est vrai que Dieu peut prendre soin et Dieu peut s'occuper de nous, mais après on lui fait confiance pour tout. Hein. C'est pas Seigneur, quand j'ai besoin de toi, je t'appelle et tu fais un miracle. Non, c'est je compte sur lui tout le temps. Hein. Alors, et il nous dit, son maître païen vit que l'Éternel était avec lui. Ça, c'est un témoignage aussi. Parce que cet homme-là, ce Potiphar, il en avait. C'est pas un petit jeune qui n'a rien vu dans la vie. Il a vu des choses. Et c'était évident. Voilà. Si on regarde dans 2 Samuel 6, 10 à 12, c'est David qui veut déplacer l'Arche de l'Alliance. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'histoire. Et il n'a pas lu la notice qui va avec l'Arche de l'Alliance. Et au lieu de la faire porter par des prêtres, comme Moïse a enseigné, il l'a mis sur un char tout neuf, et puis voilà, et des bœufs, des beaux bœufs, et puis. Mais c'est pas comme tu as dit de faire, c'est tout. Et un problème. Et à un moment, parce que les routes de l'époque, c'était pas les autoroutes d'aujourd'hui, ça bascule, le char il bascule, Ur met la main, et. Pas Ur, c'est Usa. Oui, Usa qui met la main, il touche, et parce qu'il ne faut pas toucher l'arche de l'alliance, personne n'avait le droit de le toucher, c'était saint. Il touche, il meurt sur le coup. Alors David, tout d'un coup, la fête s'arrête, il annule tout, il dit on dépose l'arche dans la maison la plus proche là à côté, et on annule tout, moi, si c'est comme ça, moi je touche pas l'arche. Et il nous dit dans ce passage, les versets 12 à 13, il nous dit, au bout de 3 mois, il y a des gens qui viennent et disent, mais tu sais, cet homme-là chez qui tu as mis l'arche, eh bien il prospère. Et c'était évident de tous les gens de l'extérieur que dans cette maison, au bout de 3 mois, tout prospère. Alors maintenant, je vous laisse imaginer qu'est-ce qui peut se passer dans une maison pour qu'au bout de 3 mois, on ait l'impression que ça prospère. C'est évident à tout le monde qu'il y a une prospérité là. De nos jours, peut-être avec la bourse, on pourrait se dire qu'il peut y avoir des jours où tout d'un coup on se retrouve riche. Mais ça, c'est pas ça qui jouait à l'époque. C'était des gens à l'agricole, c'est des gens qui. Avec des moutons, avec tout ça. Comment ça ? Et bien, au bout de 3 mois, les gens constataient. Parce que Dieu peut le faire. Maintenant, il ne va pas le faire chaque fois. Hein. Heureusement, parce que sinon, on penserait de lui autrement. Hein. Il serait pour nous comme la petite lampe là, qu'il faut frotter, puis la génie qui sort, et puis elle fait des miracles. Ce n'est pas l'image que la Bible nous donne de Dieu. Hein. Mais après, il y a un problème aussi. Vous savez, quand il y a la bénédiction de Dieu, et ben parfois, ça attire l'attention des autres. Parce que, vous savez, dès qu'il y a quelqu'un qui réussit, vous connaissez, vous êtes tous assez vécus, hein, la plupart, hein, sauf Lucas, peut-être. Mais vous savez que quand les choses vont trop bien, il y a toujours des jaloux. Et les jaloux, plus ça va. Parce que vous imaginez, hein, il y avait du monde dans la maison. Hein, Potiphar, il a des ouvriers, il a du monde, tout ça. Et tout d'un coup, il y en a un, le dernier qui arrive, quand même, tout d'un coup, il se trouve chef de tout le monde. Vous imaginez, vous verrez même de nos jours. Un petit de rien du tout qui arrive de nulle part. Un réfugié politique qui arrive. Et puis tout d'un coup on le prend, et puis tout d'un coup il est chef sur tout, et puis vous l'écoutez lui, hein. Vous n'avez plus à me poser de questions, vous allez voir Joseph. Vous pouvez imaginer ce qui passe dans la tête des gens, hein, parce que l'homme n'a pas beaucoup changé depuis. Et puis après, vous savez, quand vous avez un peu de bénédiction, un peu, demandez à Job. Il avait un peu de bénédiction, et ça a attiré l'attention de quelqu'un aussi. Satan. Maintenant, la femme de Potiphar, peut-être qu'elle n'était pas une sainte, peut-être qu'il y avait du monde derrière elle pour monter un coup, peut-être que c'est le diable qui était derrière elle, j'en sais rien. Le truc, c'est qu'il y a une tentation réelle. Et la tentation... Eh bien, vous avez un jeune homme qui est à l'étranger, personne ne le connaît, papa et maman ne sont pas là, il n'y a personne qui peut raconter sur lui, il n'y a pas de télésurveillance pour le surveiller, rien du tout. Il est loin de tout le monde, aucune chance qu'il retrouve ses parents. Eh bien, vous savez, la tentation est grande. C'est un peu comme les appeler, du temps de les appeler à l'armée, là. Ils partaient, ils étaient loin de la maison. Qu'est-ce qu'il faisait le week-end ? Il aurait été dans cette situation-là. Mais la tentation est là. La femme de Potiphar le remarque. Elle a l'œil sur lui. Quelles sont les motivations ? J'en sais rien. Mais en tous les cas, le moyen, on comprend bien. Parce qu'il nous dit que c'était un jeune homme. Hein, il était beau de figure et beau de taille, donc il y a de quoi attirer l'attention. Donc, Joseph, maintenant, il faut des raisons. Parce qu'elle demande. C'est pas lui qui a cherché, c'est pas lui qui a remarqué la femme, c'est la femme qui l'a remarqué, qui le cherche et qui veut quelque chose de lui. Hein, et qui lui demande de venir coucher avec elle. Et Joseph doit répondre. Et il est dans la maison, il ne peut pas quitter la maison, il ne peut pas, il peut rien faire, il est là-dedans. Et il donne des raisons pour ne pas, pour résister. Et il nous dit, donc, verset 7, hein, je vais lire les versets 7 à 9, il dit, après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Il refusa et dit à la femme de son maître, et voilà, il donne les raisons. « Voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. » Premièrement, eh bien, il y a une confiance. Il dit, « Le maître, ton mari, a placé pleine confiance en moi. » Je ne veux pas trahir cette confiance. Parce que vous savez ce qui arrive, une fois qu'on trahit une confiance, après, c'est plus pareil. Il hein? dit, premièrement, je ne veux pas trahir la confiance de mon maître. Deuxièmement, il a dit, mon maître m'a tout donné, sauf toi. Toi, tu es hors limite. Donc, si le maître a établi cela, je le respecte. S'il dit, il n'est pas plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien été interdit excepté toi, parce que tu es sa femme. Tu vois là. Deuxièmement, il m'a donné des restrictions et je respecte ces restrictions. Je respecte ce que le maître a mis sous mon contrôle. Ce sont des principes qu'on doit retenir nous aussi dans nos relations. C'est pas une question. La question qu'on se pose, c'est pas est-ce que je vais être attrapé ou pas. Lui, il sera jamais attrapé, dans un sens, humainement parlant. Il n'est pas attrapé. Il n'y a aucune chance. Attrapé par qui? Mais la question, c'est pas est-ce que quelqu'un le saura? Est-ce que mes parents vont le savoir? Est-ce que mon mari va le savoir? Est-ce que ma femme va le savoir? Est-ce que la famille va le connaître? Est-ce que... Ce n'est pas une question à se poser. Ça n'a rien à faire. C'est une question, est-ce que je vais trahir une confiance? Est-ce que je vais manquer de respect à quelqu'un? Et puis finalement, il y a la crainte de Dieu. Parce qu'il termine en disant, à la fin de ce verset, « Comment ferai-je un aussi grand mal et pécherai-je contre Dieu ?» Joseph, tu te poses des questions par rapport à Dieu, mais Dieu, il est où? Si Dieu était là, tu ne serais pas là. Non, et dis-moi, ça ne change rien. Peu importe où je suis, peu importe les circonstances, les conditions, peu importe quoi que ce soit, Dieu est la crainte de Dieu. Et il y a des choses que je ne fais pas parce que ça ne plaît pas à Dieu, c'est tout. Je me rappelle quand j'allais à l'école. Les gamins, il y a toujours quelqu'un pour suggérer, il dit, tiens, viens, on va faire ça. Il dit, ah non, je ne vais pas le faire. Pourquoi tu ne vas pas le faire? Mais mes parents. Il dit, tes parents, ils ne vont pas le savoir. C'est ça qu'ils disent toujours. Ouais, mais si jamais ils le savent, eux, ils ne sont pas là pour prendre la raclée. Il dit, ils te laissent tout seul avec ton problème. Mais ils sont là pour t'emmener quelque part, mais après ils ne sont pas là pour défendre. Ils ne vont pas venir et dire aux parents, c'était moi, mettez-moi, c'est ma faute, touchez pas, c'est moi qui l'ai emmené. Non, ils ne sont pas là. C'est ça. Et là, mais Dieu est toujours là. Et ma vie, eh bien, c'est une question de confiance. Il y a la confiance de mes parents, il y a la confiance de mon époux ou mon épouse, il y a la confiance de mon patron, il y a la confiance. Il m'a fait confiance à quelque chose. Je ne veux pas trahir cette confiance. Ça suffit déjà pour régler beaucoup de choses. Deuxièmement, Il y a le respect pour celui qui est en autorité, celui qui est responsable pour moi. Il y a le respect. Je respecte ce qu'il y a. Et troisièmement, eh bien, il y a le respect de Dieu, la crainte de Dieu, ce que Dieu demande. Ce n'est pas une question, est-ce que, qu'est-ce qui va m'arriver, est-ce que ça sera grave, bon, ben, c'est pas grave, je suis prêt à prendre. Non, non, ça ne lui plaît pas, ben, je ne le fais pas, c'est tout. Hein? Si je vis pour Dieu parce que j'ai peur que la foudre me frappe, ben, c'est pas la vie chrétienne, ça. Ça, c'est les religions. Mais si je vis pour Dieu, hein, comme Daniel quand il se trouvait à Babylone, finalement il aurait pu ne pas vivre, et certainement il y avait beaucoup de jeunes comme lui qui n'ont pas craint Dieu, mais lui voulait craindre Dieu. Et lui, eh bien, il s'est servi de lui. Vous savez, quand il y a la bénédiction, il y a toujours la tentation ou l'épreuve qui arrive derrière. Et peut-être pour ça que Dieu ne bénit pas autant qu'il voudrait, parce qu'il sait que dans la tentation, ben nous, on ne sera pas là, on ne sera pas à la hauteur. C'est pas la crainte qu'il ne peut pas bénir, c'est la crainte de, dans l'épreuve, on ne tienne pas. Lui nous connaît. Et parfois, pour moins que ça, moins qu'une bénédiction, déjà, on est infidèle. Alors, combien plus s'il nous bénissait? C'est déjà quand j'ai mes moyens limités, je fais déjà mes bêtises. Alors s'il me donnait les moyens illimités, alors qu'est-ce que je ferais, hein? Vous savez, Dieu est un père qui cherche le bien de ses enfants. Il ne cherche pas la souffrance de ses enfants, il ne cherche pas à les embêter, hein? Vous savez combien d'enfants se sont plaints des parents qui le faisaient coucher à 8 heures. À 8 heures! Mais vous savez que ces mêmes enfants, quand ils grandissent, qu'est-ce qu'ils font pour leurs enfants? Tu vas te coucher à 8 heures. C'est. Oui. Mais bon, après, il y a des raisons. Et puis, méfions-nous de l'attention de celui ou de celle qui ne vit pas pour Dieu. Quand quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, qui ne vit pas pour Dieu, ou qui connaît Dieu mais qui vit dans la désobéissance, il vient et commence à nous parler, nous suggérer des choses, méfiez-vous. Même si vous ne savez pas ce qu'il y a derrière. Parce que quelqu'un qui ne vit pas pour le Seigneur n'a pas de bonnes intentions. Et là, je dis celui qui ne vit pas pour Dieu, je ne dis pas celui qui ne croit pas en Dieu. Parfois, il y a des gens qui croient en Dieu, mais ils ne vivent pas pour Dieu. Et alors, après, ils sont là pour suggérer des choses, pour nous écarter de Dieu. Proverbe 6, je vais lire le passage. Proverbe 6, ça c'est Salomon qui, après sa vie, eh bien, dans son âge mûr, eh bien, il parle à son fils. Et il a dit, écoute, moi j'ai fait des choses, j'ai fait beaucoup de choses, j'ai vu, alors voilà mon conseil. Alors c'est Proverbes chapitre 6, et je lis à partir du verset 20. Il dit, mon fils, là parce que je pense à la femme de Potiphar et la tentation, cette nature de prophète. Et ces genres de tentations, ça existe encore aujourd'hui, hein, c'est très réel. Il dit, mon fils, garde les préceptes de ton père, ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Lis-les constamment sur ton cœur, attache-les à ton cou. Ils te dirigeront dans ta marche, ils te garderont sur ta couche. Ils te parleront à ton réveil, car le précepte est une lampe et un enseignement, et l'enseignement une lumière. Et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Ils te préserveront de la femme corrompue, de la langue doucereuse de l'étrangère. En général, c'était les prostituées. Hein. Ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté. Ne te laisse pas séduire par ses paupières, car pour la femme prostituée, on se réduit à un morceau de pain. Et la femme mariée tend un piège à la vie précieuse. Quelqu'un mettrait-il du feu dans son sein sans que ses vêtements ne s'enflamment? C'était l'image qu'il prend. Hein. Celui qui va dans ce péché-là, de l'adultère, en fait, c'est comme si tu mets du feu dans ton vêtement. Quelqu'un marchera-t-il sur les charbons ardents sans que ses pieds soient brûlés? Il en est de même pour celui qui va vers la femme de son prochain. Quiconque la touche ne restera pas impuni. Donc l'avertissement est bon. Salomon avait de l'expérience, hein, et il a eu ses 700 femmes et 1000 concubines, tout ça. Mais il avait de l'expérience et il a dit à son fils, c'est pas la peine. J'ai testé, ça vaut pas la peine. Il va pas dans ce sens. Il était béni, c'est sûr. Il pouvait s'offrir tout ce qu'il voulait. Mais il a dit, c'est pas bon. Bien, il y a un proverbe que j'ai trouvé. Ça n'a rien à voir, ça n'a rien de spirituel, mais c'est la vie de tous les jours. Qui me trompe une fois perd toute ma confiance et se rend à toujours digne de méfiance. Si vous avez été déçu, vous comprenez. Et si vous avez déçu quelqu'un, il faut comprendre aussi, se souvenir, hein, ça marche dans les deux sens. Mais qui me trompe une fois perd toute ma confiance et se rend à toujours digne de méfiance. Et lorsque je trompe la confiance de quelqu'un, que ce soit celle d'un parent, d'un compagnon, d'un employeur, d'un voisin, de la famille, peu importe. La confiance, la première fois, on la reçoit gratuitement. Quelqu'un nous rencontre, il nous fait confiance. Mais si jamais on abuse de cette confiance et on la perd, après, ça ne revient plus. Et bon, je cherchais les proverbes, hein, et on les cherche dans tous les pays du monde, et ils disent tous la même chose. Ils disent la première se donne, la deuxième s'acquiert. Là, il faut... Ah, mais je t'ai demandé pardon, excuse-moi, voilà. Non, non, non. C'est, on verra. J'observerai. Ah oui, mais ça y est, je me suis repenti, ça y est, j'ai compris. Non, non, non. On verra. C'est toujours la confiance, c'est quelque chose de réel. Et Joseph a compris. Hein. Il dit, je sais, je suis loin, mais il y a un principe que je veux vivre, c'est confiance. Et c'est un peu jeune, quand tout va mal, qu'il exerce ses principes. Confiance, respect, crainte de Dieu. Alors que il est dans... Après, il saura le faire quand il sera numéro 2 dans le pays d'Égypte. Il saura le faire aussi. Mais il faut être... Si je sais le faire dans l'épreuve, je saurai le faire dans la bénédiction. Hein? Beaucoup d'entre nous, on n'a pas encore appris dans l'épreuve, donc c'est pour ça qu'on est encore là. Hein? Salomon dit de la femme vertueuse, dans le psaume 30, proverbe 31, il dit « Le cœur de son mari a confiance en elle. » C'est pas qu'elle a peur de lui, non. Le mari a confiance en elle. Et ça, c'est quelque chose à conserver. Voilà le principe de Joseph. Son dernier argument, alors que la femme, elle connaît ni Dieu, elle ne connaît rien, ça ne change rien. Hein? Autant dire, les gens du monde, leur dire, écoutez, moi je crains Dieu et je ne le fais pas. Il dit, mais Dieu, ça n'existe pas. Moi, je crains Dieu, je ne le fais pas. Puis tant pis, s'ils croient pas, c'est leur problème. Et Joseph le dit à cette femme païenne, qui en plus, on pourrait dire des choses sur sa vie morale, mais Joseph va lui dire quand même. Il dit, comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Pour lui, c'était pas contre, le péché, c'était pas contre son maître, même si c'était contre son maître. Mais il a dit, c'est surtout contre Dieu. Et donc, tout le monde dit, tout péché est un péché contre Dieu. Hein, c'est pas une question de les gendarmes ne m'ont pas vu, ou quelqu'un ne m'a pas vu, ou... C'est une question, Dieu a vu. Et c'est une désobéissance contre Dieu. Si Dieu ne le veut pas, je l'ai fait, j'ai péché. Et les conséquences sont là. Voilà. Donc, Joseph, oui, petit gamin gâté à la maison, c'est ça, on a dit des choses pas gentilles sur lui. Mais quelque part, quand il était dans l'épreuve, et quand il était loin, et tout ça, il a quand même su se comporter. Vous savez, si je me comporte mal à la maison, je ne vais pas bien me comporter ailleurs. Donc jusqu'à là, on avait l'impression de dire, ouais, c'est le petit gâté, c'est le petit, puis fanfaron, tout ça. Ou bien il a fait une expérience dans le fond de la citerne, et il y en a qui pensent ça. Il dit, là, quand il était dans la citerne, les frères l'ont jeté là-dedans pour l'abandonner. Là, il a prié à Dieu, il a dit, Dieu, peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est passé là entre lui et Dieu. Et donc, c'était un homme autre quand il est arrivé en Égypte. Et voilà, et puis chacun de nous, on doit passer par cette expérience hein, de conversion, hein, où on a un rendez-vous avec Dieu et on met les choses claires avec Dieu. Et on décide, Dieu, partir de maintenant, c'est pour toi, n'importe où. Hein? Et ça, c'est important. Et donc, c'est possible que dans la citerne, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a un petit voyou avant, et puis après là, il a réglé les choses avec Dieu, et maintenant, ou sur le chemin avec les Ismaélites, là, les soirs, les veillées, le soir, quand les charrues dormaient, il était là en train de penser, Dieu, ah oui, mais moi j'ai abusé, ouais, toutes les bêtises que j'ai faites, mes frères, je les ai embêtés, je les ai taquinés, je les ai... Ah ben, tu me pardonnes tout cela, et maintenant, dorénavant, je vais de l'avant. Hein, c'est possible. La question pour chacun d'entre nous, c'est une décision qu'il faut prendre. Il y a un moment précis dans notre vie où il faut prendre cette décision. Et ça n'a rien à faire avec papa, ça n'a rien à faire avec quelqu'un d'autre, c'est entre moi et Dieu. Et c'est ça qui fera la différence. Et c'est ça qui permettra à Joseph d'être ce qu'il est quand il arrive en Égypte. Prions. Père Céleste, encore une fois, nous te remercions pour ces récits de l'Ancien Testament qui sont là pour notre enseignement, qui sont là pour nous rappeler les vérités. Père, nous te remercions parce que ce sont des principes élémentaires, mais qui déterminent tout. Et Père, heureux celui qui tient compte de cet enseignement. Aide-nous, chacun de nous, nous avons chacun notre nature pécheresse et nous avons nos tendances, nous avons nos faiblesses, mais Seigneur, donne-nous de prendre cette décision, d'avoir cette rencontre avec toi qui change tout. Père, c'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen.